Carl Bélanger analyse l'actualité de l'Outaouais au 1047 Outaouais. Voici Daniel Evan.
Je ne sais pas si un bronzage a eu un coup de soleil en fin de semaine. Bonjour, Carl Bélanger.
Ouais, moi, je me tiens loin des coups de soleil. Je suis pas du type à bronzer. J'ai deux couleurs, le blanc et le rouge mort.
Alors, OK.
on bronze pas très, 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 très bien.
Et rouge mort, on est toujours un petit peu, rouge mort, on est toujours un petit peu plus sensible.
On essaie d'être prudent pour pas que ça devienne ça parce qu'écoute, j'ai déjà eu des coups de soleil épiques là où j'ai dû mettre des vêtements longs pour me protéger. Fait que on profite du soleil, mais on met de la crème solaire en masse.
C'est dangereux, faut dire aussi. Triste anniversaire, 7 ans plus tard, Lac Mégantic. Ouais.
Écoute, c'est quand même incroyable, hein? 7 ans plus tard, Lac Mégantic. Ça demeure le pire accident ferroviaire de l'histoire du Canada. 47 morts, 26 enfants qui sont devenus orphelins suite à cet accident. 6 millions de litres qui ont été déversés, qui ont explosé, qui ont incinéré véritablement le centre-ville de Lac Mégantic. Alors, 7 ans plus tard, qu'est-ce qu'on a appris?
Et là, Daniel, tout le monde se connaît dans ce secteur-là.
Le transport?
Ben, le transport, le train passe toujours à la même place.
Ben oui. Ben, écoute, la voie de contournement, qu'on tourne pas fort. Est-ce que le transport par rail est plus sécuritaire?
Ben, j'entendais la mairesse dire que...
Les rails en tant que tel.
Ouais, la mairesse disait que les trains passent beaucoup moins vite, heureusement, qu'il y a plus d'inspections qu'avant. Mais n'empêche qu'on a-tu hâte que la voie ferrée change de place?
Ben, on a hâte que la voie ferrée change de place, mais la réalité, c'est que des accidents ferroviaires de ce type-là, il y en a eu d'autres, pas avec d'autant de dommages. Mais en Saskatchewan, notamment, au cours de la dernière année, il y en a eu deux, à peu près au même endroit, où il y a eu des déversements importants de pétrole. Ça aurait pu avoir des conséquences désastreuses là aussi. Ouais. On a changé le type de wagon. Mais c'est quand même les wagons sont encore quand même susceptibles à ce genre d'accident. La supervision de la sécurité du gouvernement s'est améliorée, oui, mais en même temps, le nombre d'inspections est relié au nombre d'inspecteurs et disons qu'on c'est pas systématique tant que ça.
Mais là, la question, c'est comment on peut faire pour transporter le pétrole? Parce qu'en train, c'est dangereux, spécialement si on arrive près des villages. Pipeline, il y en a plusieurs qui sont contre ça. Évidemment, il y a eu des tentatives, il y a plusieurs qui sont contre ça. Y aller en bateau, on sait ce que ça donne si jamais il y a un problème sur l'eau. Évidemment, le pétrole se ramasse dans la mer ou sur le plan d'eau, est-ce que le bateau va passer? Alors, c'est quoi la bonne solution? Y en a-t-il vraiment une?
Ben, c'est une très bonne question, Daniel, parce qu'effectivement, tu mets le doigt sur une chose importante. On veut enlever le pétrole et les gaz, etc., des voies ferrées, mais les gens, en même temps, ne veulent pas d'oléoduc, ne veulent pas de pipeline.
Ouais, c'est ça.
Et en même temps, ils veulent tous continuer d'utiliser leur voiture.
Ouais, ben c'est ça, là.
Tu sais?
C'est bon ou c'est pas bon?
Faut, à un moment donné, il y a quelque chose de faut moyenner, là. Faut trouver une solution. Mais c'est sûr que les oléoducs, c'est beaucoup moins dangereux pour les installations, les résidences, etc. Il y a des tracés, mais tu sais, il y aurait pas d'accident de l'ampleur du déraillement de Lac Mégantic avec des oléoducs. Les déversements risquent très peu d'exploser de la même façon, mais il y aurait des dommages pour l'environnement. Et le problème d'un oléoduc, c'est que c'est très long, c'est difficile de surveiller à 100% tous les points où il pourrait y avoir des déversements.
Absolument. Mais les gens, moi, ce que j'entendais la mairesse de Lac Mégantic qui, elle, disait, et elle lève son chapeau d'ailleurs à la mairesse qui était là à l'époque, qui a fait un travail fantastique, on se souvient, mais eux autres préfèrent maintenant que les gens voient le travail qui a été fait depuis et les améliorations, sauf évidemment, on n'aura pas la voie ferrée tassée avant 2023, mais qu'invite les gens à aller voir justement l'endroit pour voir comment c'est beau. Parce qu'on veut changer cette image de la tragédie qui est arrivée.
Oui, puis moi, je suis allé à Lac Mégantic après la tragédie, alors qu'on avait débuté les travaux de reconstruction, mais il faut s'entendre que on le sent, là. Tu sais, quand t'es sur place, on le sent qu'il y a eu quelque chose qui est arrivé de grave, de majeur. T'as pas besoin de le savoir. Tu le vois juste à l'architecture, à l'urbanisme. Évidemment, il y a le musée qui commémore cet accident-là. C'est bien, c'est vrai. On va voir le lac maintenant. On avait comme qui était disparu du paysage avec
on le voit
avec les constructions, etc. Mais là on le voit. Mais en même temps, c'est quand même quand tu regardes le nombre d'accidents ferroviaires qui impliquent le pétrole, qui impliquent les gaz, qui ont eu lieu depuis ça, ça nous soulève quand même plusieurs questions. Est-ce que ça a vraiment changé de manière significative? Est-ce qu'il pourrait y avoir un autre lac Mégantic? On n'a pas assez proche au Canada, Daniel. On n'en veut pas d'autres, mais il y a des places, on n'a pas assez proche. Et les gouvernements doivent quand même se poser des sérieuses questions, à savoir est-ce que les règlements, les inspections sont assez nombreuses, les règlements assez sévères pour éviter. Parce que présentement, l'industrie fait beaucoup de lobbying et dit que la probabilité d'un autre accident majeur comme ça demeure faible. Mais si tu avais posé la question avant Lac Mégantic, ça aurait dit la même chose.
Absolument, absolument. Changement de sujet maintenant, le racisme qui transpire des noms d'équipes de sport actuellement.
Ce qui transpire surtout, Daniel, c'est le mouvement qui fait que les équipes doivent reconsidérer leur nom. Écoute, les Redskins de Washington qui ont émis un communiqué la semaine dernière pour dire écoutez, on va lancer une étude, on va regarder si effectivement il y aurait lieu de changer le nom. Et depuis le début, là, et on monte à des années, les Redskins ont toujours refusé d'admettre que le mot Redskins, peau rouge, fait quelque chose de raciste, tente de faire croire aux gens que c'est pour honorer au contraire les grands guerriers, etc. Mais tu regardes le logo, tu regardes le nom, c'est clair que c'est insultant. D'ailleurs, ici à Ottawa, il y avait les Redskins de Nepean, qui était une équipe de football, qui a changé de nom et de logo il y a quoi, peut-être 7 ans de ça. En fin de semaine, il y a Terry Francona, le gérant des Indians de Cleveland, qui dit ce serait peut-être temps là, de changer le nom des Indians. On sait que les Indians ont abandonné leur mascotte, là, le fameux chef Wahoo. On le voit plus, il est plus sur la casquette. Mais quand même, les Indians, on s'entend, on n'est pas exactement là pour honorer les autochtones, les indigènes des États-Unis. C'est venu sur place dans les années 1910 là pour un peu rire parce que c'était c'était quelque chose de plus rigolo il y en a toutes sortes, tu sais, des noms comme ça, les Eskimos d'Edmonton, les Blackhawks de Chicago. Les équipes dans la foulée des manifestations qu'on a vues aux États-Unis, Daniel, commencent à vraiment penser à changer leur fusil d'épaule.
Mais il faut dire que c'est pas juste dans le sport. On regarde, exemple, le groupe des Dixie Chicks qui ont enlevé le mot Dixie parce qu'il y avait un lien avec l'esclavage. Alors, vois-tu, même dans le monde musical et dans plusieurs sphères, on va tenter de changer les noms justement pour pas avoir cette image-là.
Et les noms, c'est une chose, mais aussi les comportements. Par exemple, on a juste à penser aux joueurs, aux corps arrière, l'ancien corps arrière des 49ers de San Francisco. J'oublie son nom, là.
Kaepernick?
Aide-moi, Daniel.
Kaepernick?
Oui, Colin Kaepernick. Excuse-moi. Colin Kaepernick qui a été banni essentiellement de la Ligue pour avoir mis un genou à terre et lancé ce mouvement en reconnaissance des droits des Noirs.
Comme ça, là.
Il n'a toujours pas de contrat.
Non, mais c'est ça. Lui, il a été banni. Richard et moi en parlaient tantôt. Il a été banni. Et par contre, maintenant, il y en a plusieurs qui le font, même au Grand Prix. Ils le font maintenant, les coureurs qui mettent le genou par terre avant. Et d'autres équipes sportives également qui font... Mais là, eux autres, ça passe bien maintenant, puis c'est correct. Mais lui, au début, là, ce qu'il a fait, il a ouvert une porte. Et maintenant, on voit qu'il avait raison de le faire.
Bien, il avait raison de le faire. Il ne manifestait pas contre le drapeau, comme certains le disaient. Il manifestait contre la violence faite envers certaines communautés, les Noirs notamment. Mais Donald Trump, encore une fois, qui continue de faire campagne contre ce mouvement-là, c'est un enjeu éminemment politique. On est dans le sport, là, mais c'est éminemment politique, ouais, tout ça. Et bon, là, on commence à changer les mentalités, mais pauvre Colin Kaepernick, qui est comme en retraite semi-forcée, forcée, ouais, hein, parce que il y a pas une équipe qui a donné un contrat, là. Il semblerait qu'il y a des équipes qui l'approcheraient pour la prochaine saison. Bon, mais ouais, est-ce qu'il reviendra dans la NFL? Ben, ça reste
en
à
cas,
voir.
En tout cas, il
mais...
va revenir la tête haute, ça, c'est certain. Hein, ben Cyril, oui, il va revenir la tête haute.
Ben oui, puis c'est lui qui a eu raison sur toute la ligne. Et là, absolument, on commence lentement à changer les mentalités.
Bon, mais voilà. Et en terminant, École du plateau est faite domino des retards.
Ben oui, ben le droit là qui nous parle de cela ce matin, les écoles du plateau, les constructions qui ont pris du retard, notamment à cause de la pandémie. Mais il y avait des retards avant ça, hein. Il y avait des retards avant cela. On installe des espèces de modules, là, tu sais, les espèces de containers pour faire des classes parce qu'on n'a pas assez d'espace. Mm-hmm. Ben l'école primaire 036 qui Est-ce qu'elle pourra ouvrir pour la rentrée 2021? Tu dis c'est loin, mais ça vient vite. Ça vient vite.
Septembre vient très vite, effectivement.
Ben oui, et l'école 041, qui est l'école secondaire également. Ce qui arrive, c'est que s'il y a une école qui est pas capable d'ouvrir, ben on doit surcharger une autre école. On doit installer plus de modules. Et là, écoute, à l'époque du COVID-19, pas sûr, moi, que j'aimerais ça envoyer mon enfant dans un container, là. Tu sais, c'est pas l'idéal, là.
Ouais, surtout que, je sais pas, mes containers en ce moment, là, donnent une image autre de ce qui s'est passé. On se souvient avec, malheureusement, des gens et des décès, et on s'en servait comme morgue, là. Alors, on s'en sert pour d'autres choses aussi. Mais effectivement, de dire que mon enfant va peut-être mieux de rester à la maison puis avoir une classe virtuelle, serait peut-être mieux à ce moment-là.
Ben, peut-être une solution plus rentable parce que, bon, évidemment, si on les installe comme ça dans des containers, pas sûr qu'on peut respecter les mesures de distanciation. Mm-hmm. Puis l'autre chose, c'est que si on n'est pas capable de mettre les gens dans les élèves dans les écoles qui sont prévues pour eux, ben, ça a un effet domino sur, par exemple, l'école secondaire Grande-Rivière qui va être à 20% de sa capacité maximale, ouais, ben encore une fois, distanciation sociale beaucoup plus compliquée, parce qu'on parle des classes, là, mais il y a aussi des corridors, hein, tu sais.
Ah ouais, c'est sûr. Les déplacements, puis là, bien évidemment, on a beau dire que les jeunes ont pas besoin de garder une distance comme les adultes, mais là, on se rend compte que même les jeunes sont touchés avec cette pandémie. Donc, ça va changer.
Et on parle de mutation du virus. Alors, comment ces prochaines classes de virus vont affecter les jeunes? On ne le sait pas encore. Moi, j'aime mieux faire acte de prudence. Hein, c'est sûr qu'il y a des parents bien inquiets de ce qui se passe présentement sur le plateau par rapport aux nouvelles écoles qui ont du retard. Puis, il faut le dire, du retard, entre autres, causé par la pandémie, parce qu'on a paralysé les travaux pendant presque 2-3 mois.
Ouais.
Mais du retard qui existait déjà avant la pandémie, on ne fait qu'empirer les choses.
Absolument. L'infrastructure n'aidera pas non plus le temps qu'on puisse tout ajuster. Carl, c'est toujours intéressant. On se donne un rendez-vous demain matin.
À demain.
Merci beaucoup, à demain. Analyse politique, notre invité, Carl Bélanger.